la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Eh bien, pour les frustrés de la semaine dernière, nous avons passé en entier le Mesro Bechet qui s'appelle Delta Mood, un morceau très beau. Alors, ce qui est amusant, c'est que là, on a passé la première prise. Eux, ils ne jetaient jamais rien, donc on n'écoutait pas tout de suite. On
C'était gardait
pour la fin,
jet.
On ne sait jamais. Et là, on sent les mises au point nécessaires. et dans un deuxième prise, ils vont les faire. Mais c'est assez attendrissant, ce débroussaillage-là, qu'on soit un petit peu comme ça. Delta Mood, ça s'appelle.
Qu'est-ce que ça veut dire, Delta ?
Delta, bah, le Delta, tout le monde s'imagine que c'est le Delta du Mississippi. Ça, c'est exact. Mais tout le monde s'imagine que le delta du Mississippi, c'est en Louisiane, après la Nouvelle-Orléans, cette région
oui,
de bayous, de marécages,
oui.
de zones pas très bien définies, où la vie prend des formes quelquefois extrêmes, foisonnantes, luxuriantes, chaudes, moites, machin.
Inquiétantes.
Et très inquiétantes. Et ça, c'est le côté bayou de la chose. Mais en réalité, ce qu'on appelle delta du Mississippi, c'est une région qui n'est pas du tout maritime, qui est beaucoup plus au nord, et qui est une sorte de fuseaux de terre orientés nord-sud qui englobe le Mississippi, et en particulier l'État du Mississippi, à bout de la Géorgie, à bout du Tennessee, bah, jusque là-haut. Et ce delta, il est très célèbre dans la musique noire, parce que c'est du delta du Mississippi, cette région-là, que les grands chanteurs de blues sont sortis le plus nombreux.
Voilà. Ah, oui.
Alors quand ils enregistrent un morceau qui s'appelle Delta Mood, ça peut vouloir dire « je suis très proche du blues et je pense au Mississippi ».
C'est quand même très emblématique. Les racines des racines, alors.
Ouais, ou bien, je pense, chez Nouvelle-Orléans, je vais dans le Bayou, et là, voilà.
Ouais, donc ça a une double, une double signification.
Exactement. Quand j'ai découvert ce morceau-là, moi, je pensais Bayou, mais je ne savais pas que Delta de Mississippi, ça voulait dire, finalement, un peu autre chose.
Cet endroit-là, oui.
Ouais. Même. Alors, dans cette dernière séance des disques Kinjazz, il y a un morceau qu'on a laissé un peu entrevoir la dernière fois, qui s'appelle Funky Butt.
Ah, ah.
Qui est un morceau fort intéressant. Non pas à cause du titre, tellement.
Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire, Funky Butt?
Le Funky Butt, c'était l'endroit où se produisait le fameux Buddy Bolden, qui est le premier musicien connu à avoir joué de la musique. C'est-à-dire que, quand on remonte dans le temps, le dernier nom qu'on trouve avant le néant collectif qui foisonne et qu'on ne sait pas qui joue quoi, c'est Buddy Bolden. Premier chef d'orchestre à commencer à être connu.
C'est le premier homme célèbre 1880, du jazz.
1880, il n'avait plus beaucoup plus de 100 ans. Hein.
Ah oui.
Il n'a jamais enregistré parce qu'il a arrêté de jouer avant qu'il y ait des disques de manière accessible. Et il est mort fou d'ailleurs, alcoolique, enfin il a un destin pénible. Lou Armstrong disait c'est parce qu'il avait soufflé trop fort. Enfin, bon, bref, peu importe. En tout cas,
bonne excuse.
Les gamins comme Lou Armstrong des années 1900 traînaient leur guêtre autour du Funky Butt pour écouter la musique à travers les murs, parce qu'on ne peut pas y entrer. Le nom de la boîte, je ne le traduirai pas à l'antenne. Ça prouve que même en 1890 ou en 1900, le gore existait déjà. Et
ah oui, c'est...
Et largement.
C'est un nom très hard.
Oui, oui, tout à fait. Alors,
intraduisible pour les oreilles.
Totalement, oui, ça vaut mieux pas. donc voici quand même, nonobstant, voici Funky Butt par donc le Mesro Béchet Quintet. Ça, c'était Funky Butt. Hein, c'est un... Alors ça, on est au ras des racines quand même là. On sent qu'ils ont souhaité chercher, ils ont souhaité remonter à leur source. Et
source de la Nouvelle-Orléans.
Tout à fait. Le bassiste, c'est le plus grand bassiste de la Nouvelle-Orléans.
D'ailleurs, on l'entend.
C'est Bob Foster.
Il slappe. Et alors, il est encouragé par.
Il a une pulsation extraordinaire, ce Bob Foster. Il a tout l'orchestre. Et il pousse, mais c'est extraordinaire. Et à la fois, il est capable de pousser la musique et de jouer assis. C'est absolument. Ça, c'est Nouvelle-Orléans. Les gens, ils jouent très assis, très au fond des temps, et pourtant, ils poussent la musique. Voilà. C'est la signature. Ouais. Hein, comme disait Panassier, c'est pas parce que vous aurez trompé de trombone clarinette et que vous jouerez Royal Garden Blues que vous ferez du Nouvelle-Orléans. C'est quand vous aurez l'accent. Et ça, c'est l'accent. Alors là, ils l'ont vraiment de manière tout à fait formidable. Alors, cette série de disques comportait des musiciens qui étaient quelquefois oubliés et qui se sont quand même regroupés dans cette expérience commune des disques King Jazz lancés par Metz, parce que c'était vraiment une bonne expérience. On se retrouvait entre soi, de gens parlant absolument la même langue.
La même langue, oui. Mais est-ce qu'il n'avait pas... il n'avait pas quand même des difficultés pour trouver des musiciens comme ça? Parce qu'au fond, c'est pas facile de trouver des gens qui parlent exactement, je dirais pas la langue jazz, mais la langue jazz Nouvelle-Orléans. Et Sidney Bechet lui-même était une forte personnalité qui prenait quand même beaucoup de place, à juste titre d'ailleurs. Ouais. Mais quand même, quand il avait d'autres musiciens, comment en particulier les trompettistes, qui sont quand même normalement des leaders.
Ah ben ça, on va y venir plus loin, mais pour l'instant, il a renoncé aux trompettistes, comme on avait dit la dernière fois. Il y a une seule séance, la toute première, avec Lips Page. Après, ils ont tout organisé autour de Bechet. Donc c'est Bechet qui est le dominant. Tout est organisé autour de lui. Et dans la tribu, il y a un type très intéressant. C'était un batteur, un peu oublié, qui s'appelait Kazar Marshall, et qui avait été le batteur du grand orchestre de Fletcher Henderson dans les années 20 et 30, c'est-à-dire le premier des grands orchestres, en fait, qui avait fait des disques absolument extraordinaires à l'époque. En plus, c'était un type prospectif, et c'est lui qui avait inventé, dans sa forme définitive, ce qu'on appelle la cymbale Charleston, le machin qui est qui sert au pied gauche, qui s'utilise avec le pied gauche des batteurs,
qui a beaucoup marqué les gens qui faisaient du twist. à une époque, parce que c'était surtout ce qu'on remarquait chez tous les petits jeunes qui, les petits jeunes français qui faisaient de la batterie, c'était cette cymbale Charleston qui était très emblématique.
Oui, et j'en servais beaucoup. Bah, c'est Kaiser Marshall qui avait inventé l'outil. Alors, mais j'étais allé rechercher Kaiser Marshall, parce que c'était un très grand batteur de, et qui était très, très sous-employé, qui était un peu tombé dans l'oubli. Et la dernière séance du disque King Jazz comporte un morceau qui devait s'appeler autrement, mais entre le moment où il était enregistré et le moment où il a été publié, Kaiser Marshall est mort.
Ah, ça et va ils être ont un
donc,
hommage. Là.
Voilà, exactement. Donc c'est une sorte d'hommage, et ils ont naturellement appelé ce disque Kaiser's Last Break, le dernier break de Kaiser. Et voilà, Kaiser Marshall quitta le studio et il mourut avant que le disque soit publié.
Et il était jeune en plus.
46 ans, je 46 crois.
Ans, ouais,
46 c'est... ans. 46 ans. Mais tu sais, ils ne sont pas morts vieux, tous ces types-là. Hein. Il y en a qui sont morts bien souvent avant 30 ans. Hein.
Ah oui.
Ils menaient une vie absolument de fou. Déjà, quelquefois, ils avaient tendance à abuser de la bouteille. Hein. Ça s'est arrivé souvent.
Oui.
Mais en plus, il fallait prendre des boulots quand ils étaient là. Il y avait des soirées qui s'appelaient les One Nighters, où on attaquait à 4h du matin. Pour prendre le relais des gens qui jouaient...
Qui avaient joué déjà
qui jouaient jusqu'à 4h du matin.
Jusqu'à 4h.
Les types qui jouaient plus de 10h par jour. Alors évidemment, ça fait bien jouer. Mais ça ne fait pas vivre vieux. Enfin, ceux qui ont survécu, c'est qu'ils étaient vraiment très attentifs.
Ou très organisés.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y en a eu.
Jean Armstrong.
Il y en a eu des comme ça, oui.
Qui était vraiment un homme organisé.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, bon, ça c'est fini pour les disques King Jazz. Je crois qu'on a fait le tour.
Oui.
Et maintenant, il faut qu'on... parle un peu des orchestres de Béchet lui-même. Parce que avant de venir en France, Béchet a eu une série d'orchestres. Il y avait des gens qui avaient des affinités avec lui. Alors il les a regroupés selon les périodes. Et il y avait toujours un trompettiste compatible, je dirais.
Ah oui. Oui, compatible parce que, oui, on en parlait tout à l'heure, Béchet, c'était quand même quelqu'un qui prenait de la place, comme
ça,
je le disais,
c'est
à juste titre. Mais c'est vrai qu'un trompettiste, il a l'habitude d'être leader. Donc ça ne doit pas être facile pour lui de soit de s'effacer devant Béchet, soit que Béchet s'efface devant lui.
C'était difficile, donc il fallait trouver des astuces pour pouvoir... D'abord, il faut bien s'entendre ensemble. Donc il y avait des types qui avaient tempérament sympa, finalement. Et puis, il faut laisser la place au saxo-soprano de répondre, de s'exprimer. C'est quand même pas de la clarinette, c'est pas un contrepoint, c'est presque un dialogue. Alors, il y a des gens qui ça s'est très mal passé. Il y a un festival de Knokke-Lezout dans les années 60, ou de 50, je veux dire, où on a mis Teddy Buckner à la trompette, et en se disant, ça va être un mariage formidable entre ces deux-là. Mais Teddy Buckner, c'est pas un nouvel néo-orléanais, c'est un mec du Texas. Les mecs du Texas, dans le jazz, ils sont toujours extrêmement teigneux, et ils ont un gros son, ils swingent comme des bêtes, et ils ont beaucoup de caractère. Moi, j'ai remarqué ça à l'usage. Et Buckner, quand il est tombé en face de l'autre, je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Il y a un disque où il y a une note finale. C'était celui des deux qui a perdu le souffle le premier. Ils la tiennent pour je ne sais pas combien de temps. Et finalement, c'est Buckner qui tient le plus longtemps.
Et ça fâche.
Et même avec Armstrong, la deuxième rencontre avec Armstrong, on sent qu'il y a un peu de tirage dedans. Alors donc, il fallait des trompettistes bien décidés à ce que ça marche. Voilà.
C'est ça, et aussi relativement cool dans leur attitude, au fond.
Voilà. Alors, un d'entre eux a été Sidney de Paris. Alors, Sidney de Paris, c'est un c'est un des plus grands trompettistes. C'est un type de la génération après ceux qui naissent de la Nouvelle-Orléans. Il n'a pas le même langage, il n'a pas la même syntaxe, je dirais. C'est la même langue, mais pas la même manière de parler, pas le même accent.
Il est plus jeune.
Il est un peu plus jeune. Il a, avec son frère Wilbur de Paris, ils ont créé plus tard un orchestre... qui a marqué un vrai renouveau dans le cinéma de Nouvelle-Orléans, une sorte de nouveauté dans la tradition qui était très intéressante.
De nouveauté ?
Oui, de la nouveauté dans la tradition. Voilà, c'était quelque chose qui était très, très intéressant à entendre. Ils ont joué une dizaine d'années comme ça, c'était vraiment très bien. Et là, avec De Paris, avec Sidney de Paris à la trompette, mais aussi avec des...
Catlett. Un
formidable batteur qui s'appelait Sidney Catlett, un des plus grands. Et puis il y avait aussi l'autre grand bassiste de Nouvelle-Orléans qui s'appelait Wellman Broad. Donc c'est un orchestre qui tourne. Hein, avec Cliff Jackson, le disciple de Fats Waller au piano, ça fonctionne. Hein. Et ça s'appelle ce morceau-là. Alors c'est un 78 tours, si ça gratte, vous nous excuserez. On le sort du tréfonds de nos archives, car nous avons des archives. Voilà Shake It and Break It. Thank you. Bon batteur, hein.
Ah oui.
Un sacré batteur, là. Oui. Excusez les bruits parasites, parce que la platine 78 tours, c'est juste, il ne faut pas pédaler à côté pour la, pour la rendre optimiste. Bon, j'espère qu'elle continuera à vivre longtemps, parce qu'il y a des choses qu'on a qu'en 78 tours. Hein. On ne peut pas en sortir.
Oui, il y a des choses qui n'ont jamais été...
Ben, j'ai pas les rééditions s'il y en a.
Réédité ni en micro-sillon ni en CD.
Non. Et d'ailleurs, justement, le suivant est du même tonneau, toujours en 78 tours. Il s'appelle Personne ne sait de quelle humeur je suis ce matin.
Alors, c'est drôle parce que en anglais, c'est Nobody knows the way I feel this morning.
Yes.
Et alors, c'est amusant comme tout parce que. Quand j'ai entendu enfin, le titre, uniquement le titre, tiens, j'ai pensé aussitôt au « Nobody knows the trouble I've seen » qui est un gospel de joué par plein de monde, dont Armstrong.
Ah oui, Armstrong en a fait une très belle version.
Et quand je t'en ai parlé, tu m'as dit « Mais oui, c'est un blues prêché. »
Alors ça, c'est un blues prêché.
Celui-là.
C'est-à-dire qu'il a, dans le thème lui-même, hein, il est prêché, une sorte d'incantation récurrente qui revient dedans, avec une réponse. Et c'est un très beau morceau. Alors là, on a toujours le même orchestre. Le trombone qu'on entendait jouer si bien s'appelle Sandy Williams. Il venait de Big Band de Chick Webb avant.
Et qui est le trompettiste ?
Sidney de Paris, toujours.
Ah, toujours.
Et ça, c'est un blues très, très sympathique, dont Béchet, c'est pas du tout de Béchet le morceau, mais alors, on croirait qu'il était composé par lui. C'est assez étonnant. Oui. C'est presque du sur-mesure. Nobody knows the way I feel this morning. Thank you. voilà, maintenant on sait de quelle humeur il était ce matin-là quand même. Hein.
Ah oui.
Alors ça prêche à mort là. Hein.
oui,
ça prêche beaucoup.
On entend derrière les...
C'est du blues prêché.
Les riffs qui disent ah, oui. Écoutez-moi, écoutez-moi.
Ah, oui. C'est une bonne idée ce morceau. Et on dirait qu'il était fait par Béchet finalement, tellement il est
adapté.
Ouais, c'est
à son style.
Et on entend le trompettiste Sidney de Paris qui prêche vraiment énormément. C'est un orchestre où il y a trois Sidney d'ailleurs, c'est amusant.
Sidney Catlett.
Oui, Sidney Catlett, Sidney de Paris et Sidney Béchet. Mais Sidney Béchet. Alors maintenant, on va changer de trompettiste. On va passer à un jeune homme de qui Béchet s'est attaché la collaboration pendant un temps. C'était un tout jeune homme qui était un phénomène de la trompette. Moi, je l'ai un peu connu. C'était l'impression que le type est né avec la trompette au bout du nez, quoi. C'est hallucinant. Il apparaît dans le film de Louis Panassier, L'aventure du jazz. Il joue deux chorus qui sont à tomber par terre. Juste deux chorus, mais on a l'impression d'une telle maîtrise.
Et c'est qui ?
C'est médusant. Il s'appelle Charlie Shavers. Il s'appelait Charlie Shavers. Il était très jeune. Alors, on va entendre deux morceaux avec cette configuration de Béchet avec Charlie Shavers. On va quand même souligner qu'au piano, il y a Willie Smith, le lion, là, dans ce morceau-là.
Ah oui.
Oui, ce qui n'est pas rien.
Ce n'est pas n'importe qui. Saluons, monsieur le lion.
On peut saluer le lion en passant.
Voilà. Homme d'ailleurs qui parlait...
Très très grand pianiste.
Un petit peu le français, ce qui est pour un Américain de l'époque, c'était bien.
Oui, oui, oui.
C'était
oui.
Bien.
Il disait volontiers, quand il aimait quelque chose, que c'était beaucoup très joli. Il avait d'ailleurs pas tort. Alors ce morceau-là, donc, il s'appelle Georgia Cabin.
Ah, Cabin. Ça, c'est rigolo. C'est un nom français, cabine.
Oui,
et qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, une cabine de bain, c'est un endroit tranquille
petit.
Et petit. Et ben, ça veut dire un petit coin. Mais pas un petit coin au sens water de notre langage.
Voilà.
C'est un
petit coin de paradis. Ouais.
Vous aurez bien un petit coin pour moi.
Oui. Alors, petit espace.
Cabin in the Sky, c'est un petit coin aux cieux. Il y a une opérette, qui s'appelle un film qui s'appelle comme ça. Mmh. Là, c'est cabine, Georgia Cabin. C'est un petit coin en Géorgie. Voilà.
Ah oui, donc la Géorgie, ça devait être peut-être un département charmant.
La Géorgie est un État qui, manifestement, a quelque chose qui attire les musiciens, parce que, d'abord, la capitale, c'est Atlanta, qui est quand même très connue, et c'est passé beaucoup de musique à Atlanta. Il y a des Atlanta Blues, en veux-tu ou voilà. Ensuite, Ray Charles.
Ray Charles en est originaire.
Tu sais que le morceau « Georgia on my mind » de Ray Charles est devenu l'hymne de l'État de Géorgie.
Ah, oui.
Mais personne ne sait que ce morceau, en réalité, était composé à la fin des années 20 par Oegy Carmichael et que Louis Armstrong en a fait la première version connue en disque.
Oui, il faut quand même reconnaître que ce qui est devenu planétaire, c'est avec Ray Charles.
Hein. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai.
Ray Charles, le monde entier a connu... Georgia on my mind.
Ah, ça, c'est sûr.
Ça, c'est
et,
sûr.
Et lui qui s'était fait encabaner en Géorgie par des gens, c'est le Sud un peu raciste. Comme il devait se droguer un peu, on avait trouvé ce qu'il fallait pour l'encabaner. Il y avait toute une histoire avec ça. Et il avait juré qu'il ne mettrait plus jamais les pieds. Et un jour, après que cette terre soit devenue planétaire à cause de Ray Charles, l'État de Géorgie s'est assuré quand même qu'il s'était un peu désintoxiqué et qu'il avait racheté une conduite. Après quoi, il a fait venir Ray Charles en grande pompe et on a intronisé ce morceau comme hymne de l'État, avec lui, grande cérémonie.
Pour un noir aveugle...
Oui.
C'est quand même une sacrée revanche.
Ça n'a pas dû être mal, oui, je pense que... Oui.
Sacrée revanche.
Effectivement, ça n'a pas dû être mal dans sa tête. Il en parle avec certaine satisfaction dans certains livres ou films. Alors, ce Georgia Cabin, c'est un morceau de Sidney Béchet, qui est un très beau morceau, qui a une grosse difficulté... pour pouvoir l'improviser dessus. C'est pas un morceau facile. Il y a un endroit de un changement de ton qui est particulièrement coton, évidemment, Béchet.
Ah, techniquement.
Béchet boit l'obstacle, mais j'en connais qui se sont sacrément viandés dessus. Et c'est un très joli morceau, Georgia Cabin. Thank you. Voilà, un petit coin en Géorgie. Sympa.
Alors, il est... Je trouve que c'est tout à fait charmant, parce que ce morceau, finalement, le trompettiste en particulier, est extrêmement... Sa musique, elle est limpide, elle est calme, et en même temps, elle est très assise sur le temps. Mm-hmm. Et c'est étonnant, on dirait quelqu'un qui n'a pas l'âge qu'il a.
Non, mais c'était une sorte de patineur aérien. Enfin, Shaver, c'est un magicien de la trompette, de toute façon.
Ah oui.
Je regrette bien que Bechet lui ait laissé qu'un demi-chorus, mais il va se rattraper au morceau suivant. C'est... Il n'y a pas de difficulté pour Shaver. Shaver, il est implantable sur les morceaux plus difficiles, comme le suivant, justement.
Alors, le suivant, c'est de Cole Porter. Hein.
Alors, Cole Porter, c'est un fameux compositeur pour revue. Il a fait des chansons très connues et qui sont souvent extrêmement difficiles parce qu'elles supposaient des orchestrations et c'est des chansons aussi pour lecteurs. Alors, le morceau suivant, lui, c'est pas difficile, il change de ton 8 fois.
Alors, dans le même morceau.
Oui, dans le même chorus. 32 mesures, on change 8 fois de ton.
Oh là là.
À l'oreille. Alors, je peux te dire, les gens qui ont l'habitude de jouer en transposant, il faut qu'ils s'accrochent quand même vachement. Et là-dedans, Bechet, naturellement, est totalement à son aise. Ils ne prennent pas ça sur un tempo casse-cou. Hein, sur un tempo
quand même. Hein.
Mais alors, ce que fait le trompettiste Shavers, tout jeune alors, sur ce chorus-là, c'est absolument incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Il arrive à en sortir tout ce qu'il y a à en sortir avec une aisance. On a presque l'impression qu'il prend quelquefois, qu'il fait ça en passant. Quoi. C'est...
Et le nom du morceau, c'est
What is this thing called
love?
C'est-à-dire, mais qu'est-ce donc que cette chose
qu'on appelle l'amour?
L'amour. Ah, je vous le demande. Thank you. Incroyable.
C'est amusant parce qu'il m'a fait penser, ce trompettiste, aux trompettistes mexicains qu'on appelle les mariachis.
Ah ben, bah, tout à fait.
Il y a un son qui est très joli comme ça, et il termine comme les mariachis, vers le haut.
Eh ben, ça s'explique. Il y avait à l'époque, alors je crois que c'était à cette époque-là, un fameux trompettiste s'appelait Rafael Mendez, qui jouait alors de la musique comme ça, c'était sa culture à lui.
Oui.
Et il avait une telle maîtrise d'instrument, il a beaucoup impressionné tout le monde, et je pense qu'il a influencé Shaver. Quand on laissait Shaver sur une introduction à son idée comme ça, etc., il partait sur un machin à l'espagnol ou à la mexicaine,
ouais,
mais totalement structuré. Ouais. Et en plus, comme il a beaucoup le sens du gag, il avait un petit côté acidulé comme ça. D'ailleurs là, je ne sais pas si Béchet a apprécié l'insolence, mais le genou, à un moment donné, Béchet fait une phrase très jolie, etc. Béchette. Et derrière, il y a le type qui joue la même, comme ça, pouf.
L'air de dire, je t'ai entendu.
Bon, c'était assez culotté. Alors, un autre trompettiste, alors qui lui est beaucoup moins connu, c'est un nommé Harry Goodwin. Alors, ce Harry Goodwin, il aurait pu être plus connu, d'ailleurs. C'est un excellent technicien, c'est un bon trompettiste, qui a un bon son, qui joue bien, il a tout ce qu'il faut où il faut, mais sauf le petit, le petit truc qu'il aurait fait plus connaître.
Alors, est-ce que...
Il n'appartient pas au très grand, quoi.
Il n'est pas exceptionnel.
Non, non.
C'est un très, très bon.
Voilà, c'est un bon deuxième couteau. D'accord. Par exemple, quand on a commencé à perdre les grandes vedettes pour faire venir des gens à des festivals dans les années 80, on a commencé à redécouvrir les seconds couteaux. On a fait venir Benny Bellet, Doc Chitam, des gens comme
Pourquoi
ça.
Pourquoi tu dis perdre ?
Parce qu'ils sont morts. Ils étaient un poil plus vieux. Ils sont
D'accord.
morts. Et les deuxièmes couteaux qu'on a vus arriver sur scène, ils étaient époustouflants. Ils étaient éclipsés par les autres.
Oui.
Donc Harry Goodwin, il est quand même venu au Festival de Nice en 48, comme trompettiste de l'orchestre de Mesereau. Et ce qu'on entend là, en fait, c'est un peu l'orchestre avec lequel Mesereau est venu en 48 à Nice. Voilà. Et il joue un morceau qu'ils avaient longuement mis au point, qui s'appelle The Mooch.
Ah, mais c'est de Ellington.
Oui, c'est un fameux morceau d'Ellington. Et quand on entend The Mooch joué par Béchet et son orchestre, on a, une fois de plus, l'impression que le morceau a été fait pour Béchet et par Béchet.
Alors, c'est intéressant parce que ce morceau, The Mooch, je pense que c'est un des rares morceaux que des jeunes de maintenant connaissent.
Ah, c'est possible.
Parce que c'est quelque chose qui est très, très intéressant, c'est le style jungle.
Ah oui, oui.
C'est qui a été non pas créé, le style jungle, il n'a pas été créé par Ellington, proprement dit.
Si.
Il n'y a que lui qui a créé ce style, mais c'est vrai que ça a correspondu.
C'est un hasard d'ailleurs. C'est un hasard. Le Cotton Club jouait la mode de l'époque qui consistait à reconstituer
des
sortes d'exotisme foisonnant et à l'africaine.
Pendant 4 ou 5 ans, toutes les revues. Tous les Noirs, qui étaient des bons Américains noirs, mais qui dans la vie se promenaient évidemment pas en bagne, on les a affublés de pagne. D'ailleurs, on l'a vu avec Joséphine Baker et son...
Absolument, et son célèbre short en banane.
Son short de banane, mais effectivement, ce style a fait fureur. On l'a appelé style jungle, c'est-à-dire tout le monde était plus ou moins déguisé en Africain, avec des énormes tam-tams.
C'était des revues assez extraordinaire. Mais alors, c'est des revues pour blancs, hein, parce qu'au Cotton Club, les Noirs étaient sur la scène.
Ah, oui.
C'était à Harlem, pourtant. Hein. Mais les Noirs étaient sur la scène et les Blancs étaient autour.
Les Noirs n'avaient pas le droit de le voir ?
L'accès...
Ou est-ce que c'était trop cher ?
Non, l'accès était interdit aux Noirs.
C'est fou.
L'accès de la salle. Voilà.
Les Noirs donnaient le spectacle, mais les Blancs étaient...
Sauf certains très pistonnés qui, je ne sais pas comment ils faisaient. Pour en revenir à nos oignons, voici la version, alors, on ne peut plus Béchette, on meurt, de ce fameux morceau de Duke Ellington. Vous m'excuserez naturellement, je me suis trompé de plage. Il y a des jours où ça m'arrive.
Je trouvais que
c'est comme ça.
The Mooch
c'était la même chose que tout à l'heure.
Curieusement.
Voilà, The Mooch. Thank you. Évidemment, Harry Goodwin, il a tout à fait le profil de l'emploi. On peut pas rêver plus Wawa et Jungle que cette manière de jouer.
Ah oui, justement, alors la trompette Wawa, c'est...
Bah, c'est autre chose que la trompette, hein. C'est pas le même instrument du tout.
C'est un instrument, c'est toujours une trompette.
Avec un débouchévier.
Mais on met, qu'est-ce qu'on met ?
Un débouchévier devant. Et on module le son avec la main gauche en tenant le débouchévier devant, en ouvre, on ferme, on le malaxe.
C'est-à-dire que le débouchévier, on le met carrément devant la trompette.
Il est devant, il change le son comme il est en caoutchouc, il absorbe un peu le son. Et en ouvrant plus ou moins, on arrive à parler avec.
Ça fait wah, wah, wah comme ça. C'est donc c'est pour ça qu'on l'a appelé trompette wah, wah.
On appelle ça la sourdine wah, wah. D'ailleurs, ce modeste accessoire de plomberie est devenu. Promu au rang d'un instrument de musique. Ça s'appelle une sourdine wah-wah.
Donc, on
en vend des très très chers en plastique qui n'ont pas du tout le même son. Mais maintenant, on en fabrique qui ne sont plus assez durs comme caoutchouc. Ils sont trop mous. Alors, au point de vue son, ils ne donnent rien.
Donc, si on voit dans une quincaillerie un trompettiste qui achète un débouchévier, c'est débouché chez lui.
Aucun doute.
C'est parce qu'il va s'en servir pour faire wah-wah.
Eh ben, c'est exactement ça. Oui, mais ce n'est pas le même instrument. Alors, moi, ça, je pourrais en parler savamment, parce que moi qui joue de la trompette, je joue surtout la trompette wah-wah.
Oui,
et je me rends bien compte que ce n'est pas le même instrument du tout.
Il y a un son très, très différent qui sort de cette trompette, finalement.
Absolument. Absolument. Et justement...
C'est un peu, moi, ce qui m'a frappé, moi qui ne connais pas forcément beaucoup le jazz, mais ce qui m'a frappé, c'est que quand on joue de cette trompette, on a effectivement l'impression que la personne vous parle.
Ah oui, c'est une trompette qui parle. L'inventeur de ça, c'est le premier connu pour avoir utilisé ça, c'est King Oliver. Donc ça remonte aux années 10. Ah oui. Dès que le débouchévier a été inventé, les types en ont fait un instrument de musique.
Parce qu'au fond...
C'est pas difficile. Hein. Ils sont comme ça. Hein. Bon.
Mais c'est vrai que c'est bien. Le jazz, au départ, il est parti de la voix humaine. Donc c'est très logique.
Ah mais on ne peut plus logique. On ne peut plus logique. On va encore avoir un très grand... On ne va pas arriver aujourd'hui jusqu'au bout de la liste. Hein,
parce qu'on va
terminer avec Rex Stewart.
Alors, c'est encore un autre trompettiste.
Voilà,
alors.
Exactement. Alors, Bechet a joué un peu avec Rick Stewart. Et là, c'est très intéressant parce que les Fit Warmers, toujours pareil, sont avec Earl Hines au piano, un bon bassiste qui s'appelle John Lindsay, et le batteur Baby Dodds, qui était un des deux ou trois plus grands de Nouvelle-Orléans. Donc, c'est la musique Nouvelle-Orléans jouée par des gens qui n'en viennent pas, mais qui s'y font très bien.
Sauf Baby Dodds.
Bien sûr. Je veux dire, tous les autres, ils jouent
et Béchette,
avec
quand même, qui est de la Nouvelle-Orléans.
Et tous les autres sont capables tout à fait d'être très homogènes.
De s'adapter.
C'est un très bon disque. Alors, le morceau s'appelle Stompy Jones.
Ah, mais Stompy Jones, c'est le surnom. du valet d'Ellington.
Absolument. Imagine-toi quand Ellington a monté son orchestre en 1927, ils étaient tous très jeunes. Il y avait un type qui avait envie de faire de la musique, mais qui ne savait pas en faire, mais qui voulait faire partie du groupe. Enfin, tu sais, il y en a toujours des copains comme ça.
On lui a trouvé une fonction.
Alors on lui a dit, écoute, tu restes avec nous et tu fais tout. Alors, monsieur Richard Bowden-Jones, c'était le factotum de l'orchestre Ellington. Et il faisait tout. Il allait parler aux éclairagistes, aux sonorisateurs, il portait les caisses, il servait de valet. À la limite, il aurait pu aussi faire maître d'hôtel. C'était le factotum.
Mais c'est amusant parce que nous qui avons vu Ellington, j'allais dire en vrai, puisqu'on l'a vu dans les coulisses des théâtres où il passait, c'est vrai qu'il avait une allure folle.
Ah oui, ça,
Duke
c'est
Ellington,
sûr.
C'était le grand monsieur. D'ailleurs, si on l'appelle Duke...
C'est pas par hasard.
C'est pas par hasard.
C'est pas par hasard.
Alors là, ça n'a rien d'étonnant parce qu'il est un valet.
Alors ce valet Jones, il était tellement efficace et tellement toujours en action qu'on l'appelait Stompy. Parce que le stomp,
ça veut dire
c'est un morceau entraînant, bien marqué, bien scandé. Ah, oui. Il vivait avec rythme, voilà.
Ah, oui.
Donc on l'a appelé Stompy Jones et Ellington lui a dédié ce morceau. Et là, Bechet le reprend à Craig Stewart à la trompette. Alors vous nous excuserez, c'est de nouveau en 78 tours, on ne va pas faire autrement. Et c'est là-dessus que nous allons terminer notre émission pour aujourd'hui. Et voilà.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.